Bonjour chers auditeurs, bonne année, parce que c'est la première émission de l'année. Et aujourd'hui, c'est si vous voulez me prêter vos oreilles, avec Jasmine à l'animation et Stéphane à la technique. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de Christophe André. Je l'ai déjà fait connaître auprès de vous. Mais un autre livre qui s'appelle « Je médite jour après jour ». Ça va être des petites histoires de méditation. « Petit manuel pour vivre en pleine conscience », ça s'appelle. « Je médite jour après jour ». Quel programme, hein ? Méditer pour apaiser son esprit. Méditer pour savourer sa vie. La méditation de pleine conscience est un moyen de cultiver sérénité et lucidité, accessible à tous. Ce manuel est destiné à guider jour après jour ceux qui se lancent dans la méditation, comme ceux qui approfondissent leur pratique. Il comporte 25 leçons, depuis les bases « Comment utiliser la respiration », le corps, la conscience de l'instant présent, jusqu'aux exercices approfondis, faire face à la souffrance, stabiliser ses émotions, construire la paix de l'esprit et du cœur. Et il se clôt sur un cahier pour personnaliser et améliorer sa démarche. Christophe André est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Il a été l'un des premiers à introduire la méditation dans le traitement de ses patients. Il est l'auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels « Méditer jour après jour », qui a initié plus de 300 000 lecteurs à la pleine conscience. Et je vais vous parler du chapitre 2 qui s'appelle « Vivre avec les yeux de l'esprit grand ouvert ». Une philosophie de vie quotidienne. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui, quoi ? N'avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Montaigne, dans les Essais. Voir l'ordinaire. C'est une histoire simple. Un soir pendant les vacances, tu faisais le plein d'essence dans une petite station perdue. Tout seul, personne autour de toi, que des robots à carte bleue. Rien de moins poétique qu'une station-service. Mais tout à coup, tu as remarqué que c'était la tombée du jour, que la lumière était magnifique, l'air tiède et bienveillant. Tu as remarqué toutes les premières lumières qui commençaient à s'allumer dans les montagnes alentour. Et tu t'es retrouvé aspiré dans un autre monde, un monde parallèle, à côté duquel tu te trouvais sans le savoir, celui de cet instant banal et ordinaire. Ce ne sont ni la beauté ni la bizarrerie qui alors te touchent et t'immobilisent corps et âme. Ce n'est pas ça qui ralentit doucement, jusqu'à l'immobilité, le flot de tes pensées, de tes gestes et de tes projets. Tu t'es arrêté parce que cet instant est unique, parce que tu ne reverras plus jamais exactement ce que tu vois, parce que tu ne revivras plus jamais exactement ce que tu vis. C'est ça, tu as compris. Tu t'es arrêté parce qu'a surgi à ta conscience l'essentiel. Tu es en train de vivre un bout de vie. Comment peux-tu oublier ça si souvent ? Oublier que vivre est une chance. Oublier que chaque instant de vie est un miracle. Gagner sur la nuit, la mort, le néant. Comment peux-tu oublier ça ? N'oublie plus jamais de vivre. Maintenant, par exemple, relève la tête et continue de regarder autour de toi avec les yeux d'un nouveau-né, comme si jamais encore tu n'avais vu ce que tu vois. Allumer plus souvent l'interrupteur de sa conscience. Nous éveillons notre conscience face à ce qui est beau, imprévu, bouleversant. Mais le reste du temps, nous sommes le plus souvent des robots, agissants et absents. Parfois, nous nous réveillons. Notre époque place ainsi dans nos vies des tas de panneaux indicateurs. C'est par ici, par là, des publicités maintenant, regarder, écouter, savourer, des moments bien cadrés où il faut s'émerveiller ou s'émouvoir, cinéma, théâtre, visite de musée, certitude balisée. Mais notre vie n'est pas une visite guidée. À force de nous laisser ainsi manœuvrer, nous devenons des esprits creux, des âmes mortes ou léthargiques. Aimer le normal, le banal, les regarder, les respecter. Affûter notre esprit pour cela. s'ouvrir à la densité de la banalité. Il n'existe pas d'environnement nécessaire ou indispensable à la pleine conscience. Il y a certes des environnements favorables, privilégiés et facilitants. Mais cela peut nous arriver partout, à condition de faire quelques efforts, à condition de rester des êtres éveillés et présents. Ne plus faire, mais être. Nous faisons toujours, nous faisons. Nous sautons d'une action à une autre, et même en agissant, nous ne sommes pas présents à ce que nous faisons. Bien souvent, notre esprit est empli d'intentions ou de souvenirs d'autres actions encore. Dans l'absolu, être n'est pas mieux que faire. Nous avons besoin des deux. Mais justement, nous avons besoin des deux. Et le monde mental que notre vie oublie ou expulse le plus volontiers, en toute inconscience, c'est le monde mode être. Dans nos sociétés, le mode par défaut est le mode faire. Alors la pleine conscience nous chuchote de sortir du faire et de basculer même un tout petit moment de rien du tout dans l'être. Juste être là. La vie comme un exercice de pleine conscience. La consigne est simple, intensifier sa présence à ces instants bénins, les habiter par la conscience, cesser d'être un spectre, sortir des limbes de ce qui n'est pas la mort, bien sûr, mais qui est parfois une forme de non-vie. Se rendre présent, c'est se rendre vivant, pour de vrai. S'observer dans l'expérience, là où l'on est et pas seulement dans des conditions privilégiées. S'observer dans l'expérience de la vie ordinaire, même de l'ennui parfois. Par exemple, pendant les attentes et les transitions, en profiter pour sentir qu'on est là et comme on y est. Ne plus attendre, être là. Un jour, lors d'une de mes pérégrinations vers un congrès, j'attendais le train sur un quai de gare. Je l'attendais vraiment. Surveillant l'heure, observant l'horizon et me demandant s'il allait arriver par la droite ou par la gauche. Tout en sachant que le départ n'était prévu que dans 10 minutes, mais je me demandais si c'était un train qui venait d'ailleurs. Il arriverait juste à l'heure, ou s'il partait d'ici, il serait à quai plus longtemps avant et je pourrais y remonter. Bref, l'esprit complètement encombré de pensées inintéressantes et inutiles. Heureusement, je m'en suis rendu compte, ce n'est pas toujours le cas. Je me suis vue tout à coup en train d'attendre mon train, comme un chien attend sa pâtée. Je me suis dit que non, ce n'était pas possible de traverser ma vie comme ça, même un petit bout de vie. Alors j'ai songé à mes patients, aux exercices de présence au monde que nous pratiquons régulièrement. Et j'ai juste fait comme eux, juste fait ce que je leur demande de faire. J'ai abandonné le registre de l'action, ou plutôt de la trépination, à ce moment où je ne faisais qu'attendre et surveiller l'arrivée ou le retard du train. Et je suis passée sur le registre de la présence. J'ai laissé tomber la montre et l'horizon du bout des rails. Et j'ai tourné mon attention vers ma respiration, la façon dont je me tenais. Je me suis doucement redressée, j'ai ouvert mes épaules, puis j'ai aussi ouvert mes oreilles. J'ai écouté les sons de la gare, les rumeurs, le bruit des roues sur les rails, les dialogues d'oiseaux. J'ai observé la lumière de ce jour de printemps, les mouvements lents d'un train de marchandises là-bas, tout au bout des quais, les nuages, toutes les installations, les panneaux, les bâtiments au loin. J'ai reniflé cette odeur froide de métal qu'il y a souvent sur les quais de gare. Fantastique ! Tout ce qu'il y avait à voir et à ressentir. Fantastique ! Comme c'était intéressant et apaisant d'être intensément là, présent à ma vie de l'instant. Lorsque je suis montée dans le train, j'étais serein comme jamais. Je ne l'avais pas attendu une seconde. J'avais juste vécu ma vie, vécu des minutes nourrissantes. Juste être là, conscient, prendre conscience que l'on est vivant. Ne rien faire ? Si, vivre, vivre en conscience. Touché par le banal, bousculé par le normal, éclairé par le bénin et l'ordinaire, ébloui et ravi par la vie. Leçon 9. Se rendre sensible à présent à ce que l'on ne regarde plus. tout ce qui est ordinaire et habituel, tout ce qui a cessé d'attirer notre attention. Se laisser toucher par le quotidien au lieu de l'asservir ou de le piétiner sans le voir. Inviter le monde en nous et découvrir sa subtilité et sa diversité au lieu de ne voir de lui que ce qui correspond à nos obsessions de l'instant. C'est facile, il n'y a que trois conditions. Le vouloir, souhaiter évoluer dans le monde réel et non un monde virtuel, appauvri par l'étroitesse de notre attention, le permettre, avoir désencombré son esprit et élargi sa conscience, et le faire, relever la tête, ouvrir les yeux et regarder pour de vrai.
Aloba, aloba lasu, langun, onyolanji, obangisaneno, matumba mongo lama staba.
Voir l'invisible. Il existe dans la peinture occidentale un genre particulier qu'on appelle nature morte. Le peintre y présente des objets inanimés, souvent des fruits, légumes, fleurs ou instruments de musique. Et grâce à sa mise en scène et en valeur de ces objets, nous en découvrons la grâce et la beauté. Nature morte, quel drôle de nom! L'appellation anglaise still life, vie immobile, et allemande et la flamande, qui disent la même chose, sont bien plus proches de la réalité. Ces peintures montrent une vie silencieuse, calme, apaisée. Qu'elles nous invitent et nous incitent à rejoindre. Dans ce monde en mouvement, dans ce monde utilitaire, la nature morte nous arrête. Vie immobile, vie inutile. Inutile ? Parce qu'elle n'a rien à montrer que de l'ordinaire ? Mais justement, ce qu'elle nous montre, c'est l'ordinaire qu'on ne regarde jamais. Et si l'on regarde, on voit de la simplicité en majesté, une présence intense derrière l'immobilité. Si l'on regarde, on voit que même ce qu'on ne clignote pas, ne bouge pas, ne scintille pas, ne fait pas de bruit, peut avoir de l'intérêt et de l'importance. Si l'on regarde, on voit qu'il y a de la beauté, de l'intelligence et même de la grâce dans la simple, l'accessible, le disponible. Je me souviens d'une discussion un jour avec un moine zen qui me recommandait de toujours respecter l'inanimé. Mais qu'est-ce que l'inanimé ? C'est, me disait-il, ce qui ne crie pas quand on le frappe. Les choses, les objets, tous ces bouts de matière ne crient pas, jamais, mais parlent parfois. Des choses. Vivre en pleine conscience et prendre le temps de contempler, d'être touché par les objets, ce que l'on croise chaque jour et que l'on oublie parce qu'à force de les voir, on ne les voit plus. Les laisser entrer en nous, entrer en eux, abolir les limites, être eux et les laisser nous prendre et nous fasciner sans but. Dans un recoin de la maison, s'abandonner à leur présence muette. Réaliser à quel point ces objets sont source de calme, de lenteur, de pérennité. S'en rapprocher, s'en imprégner. Écouter comme ils nous murmurent de résister à l'activation. Faire, faire. Et à l'accélération, vite, vite, ces deux mots modernes. Prends garde à la douceur des choses, dit le poète Jean-Jean Toulet. Oui, car cette douceur peut nous entraîner bien loin. Mais plutôt que d'y prendre garde, prenons-en soin au contraire. Chérissons la douceur des choses. Cette vie mobile va nous embarquer vers des voyages immobiles. Lien secret. Les objets ordinaires ne sont pas ordinaires. Ils sont merveilleux. Entre dans ta cuisine. Regarde la bouteille d'eau, le verre, la cafetière, la table, le mur, les pommes, les gousailles. Merveilleux. Boire, manger, fabriquer, appartenir à une espèce intelligente, curieuse et industrieuse. Merveilleux. Ouvrir les yeux sur toutes les richesses inondables, inestimables, que nous côtoyons sans les voir. Merveilleux. Bien sûr, il y a un effort. Un microscopique effort de présence et de regard pour voir ce qui est invisible, à qui ne regarde pas. Voir que nous ne sommes jamais seuls, mais au cœur de mille liens. D'autres humains que nous ont fabriqué ce vase, cette table, ont cherché des sources et bâti des aqueducs pour que l'eau nous désaltère. Ont compris comment faire du sable, un verre, ont cultivé et cueilli ces oranges. Et nous voilà, regardant tout cela. Comme d'autres ont regardé avant nous, et d'autres encore regarderont après. D'autres qui, comme nous, auront fait l'expérience de boire de l'eau, de reconnaître l'odeur ou le goût d'une fraise, de caresser de la main le dessus d'une table. La banalité nous a ouvert à l'humanité, parce que nous l'avons acceptée, recueillie, écoutée, regardée, ressentie, aimée. Sans vouloir la changer ni l'embellir, sans vouloir la modifier. Telle qu'elle est, nous l'avons contemplée et nous nous sommes sentis vivants, humains et réjouis. Heureux d'être là dans ce recoin de cuisine avec ses objets ordinaires. Heureux tout doucement de ses connexions à la nature, aux humains, à notre histoire. Chaque objet bénin est une malle au trésor si on le regarde avec attention et affection. Celui-ci nous a été donné, celui-là nous l'avons acheté à tel endroit, à telle époque. Cet autre a été inventé et créé par des humains d'un continent lointain, d'un passé très lointain, ancien. Et celui-là vient de si loin. La présence aux objets, comme une conscience de l'humanité en nous, et autour de nous, comme une dette joyeuse, une gratitude élargie à l'infini. Comment, après cela, se dire misanthrope ou se gonfler d'orgueil. Aller vers l'essentiel. On peut faire un pas de plus. On peut aller au-delà, encore, de toutes ces histoires qui nous racontent des objets silencieux, qui vivent dans l'ombre de notre conscience. On peut les contempler sans réfléchir et sans rêver. Ou, ce que l'on nomme contemplation, c'est l'attitude de la conscience quand elle se contente de connaître ce qui est, sans vouloir le posséder, l'utiliser ou le juger, selon la splendide définition d'André Comte-Sponville. Contempler, c'est regarder sans espérer, ni convoiter, ni commenter. C'est adopter une position d'humilité ouverte et curieuse envers le monde qui nous entoure, surtout envers ce petit monde immobile et invisible. C'est regarder les objets pour ce qu'ils sont, se désengager même de ce qu'ils nous disent. Doucement se désengager de leur histoire, on me l'a donné, je l'ai ramassé, je l'ai acheté un jour où il pleuvait et j'étais triste. De leur finalité, ils me servent à ceci ou à cela, de notre jugement sur eux, elle est belle, il est moche, ils sont bizarres. Doucement s'affranchir de ces paroles mentales, les traverser et aller plus loin encore. Voir les choses dans leurs secrets, de matière tranquille, se connecter juste à ce qu'elles sont, recevoir d'elles une leçon de sagesse silencieuse sans un mot. L'immobile révèle l'invisible, comme le silence révèle l'essentiel. Prenons soin d'accueillir le monde avant de prétendre le penser. Cherche parmi tous ces objets misérables et grossiers de la vie paysanne, celui posé ou appuyé et n'attirant point l'œil, dont la forme insignifiante, dont la nature muette peut devenir la source de ce ravissement énigmatique, silencieux sans limite. Leçon 10. S'abandonner au vertige de la contemplation des objets quotidiens. Une noix, une chaussure, un brin d'herbe, un téléphone. S'en approcher, les observer, se laisser d'abord gagner par tout ce qu'ils peuvent nous dire. Tant d'intelligence et d'efforts les ont conduits à exister, tant d'histoires les ont conduits là devant nous dans nos vies. Puis doucement, laisser refluer les pensées et ne rester qu'avec l'essence de l'objet sans rien lui demander de plus que sa présence silencieuse. Mystique apaisante et étonnante de la casserole ou de la fleur négligée et oubliée, sauf de moi. Ces visites à l'insignifiant comme des remerciements et des hommages rendus à ma chance ahurissante. Je suis un être humain vivant et conscient. Voir l'important. Lorsque je me trouve dans un supermarché, je me sens en danger, comme lorsque j'arrive en voiture près d'une grande ville dont les carrefours et les autoroutes urbaines s'entremêlent en tous sens. Il me semble que je suis en danger parce que je suis trop loin de mes racines animales ou humaines et qu'elles se rebiffent en m'attristant dans le supermarché ou en m'affolant sur les autoroutes. Je suis dans un univers de trop et du factice dans un océan de signaux artificiels intelligemment pensés par d'autres pour me téléguider. Je suffoque, je m'asphyxie, ce monde de pléthore et de tumulte. Je ne veux pas m'en plaindre, nos ancêtres ont trop souffert du manque et de l'ennui peut-être, et beaucoup de mes contemporains l'apprécient. J'ai juste à m'en méfier. Où est l'essentiel? Où est l'important? Dans ces mondes de l'artifice, je me sens perdue. Ma chance est que je le sais et que je dispose d'une boussole pour me retrouver la pleine conscience. Leçon 11. Inlassablement protéger son esprit des intrusions et sollicitations de la vie moderne. Cela veut dire, entre autres, faire la chasse à tous ces automatismes consistant à allumer sans y penser la radio, la télé, l'ordinateur. Préserver jalousement des plages de continuité pour notre esprit. Ne pas se laisser déranger ou interrompre par le téléphone et les messages Internet. Considérer que le calme et le silence sont des nourritures indispensables de notre cerveau et que s'en priver trop longtemps nous rend tout doucement malades. Merci, chers auditeurs, et bonne méditation. Thank you.